1, 2, 3, 4.
Dans cette séquence, nous allons découvrir un type d'application du modèle gravitaire qui s'appelle le modèle de Rayy et qui est très utilisé en géomarketing. Le géomarketing est ce qui permet de travailler avec les commerces, leur localisation, leur clientèle et c'est un ensemble d'opérations qui sont effectuées très souvent dans le domaine des services, y compris aussi pour les services publics, même si globalement la discipline s'appelle le géomarketing. Dans ces travaux, on s'attache à prendre en considération l'aire de chalandise d'un service ou d'un commerce qui rassemble dans un environnement proche toute la clientèle qui est susceptible de s'y adresser. On met sous le même vocable ce qui concerne l'aire d'influence d'un plus grand centre commercial ou même parfois de tout un centre urbain qui s'adresse à une clientèle éparpillée. Et on définit alors comme étant la portée spatiale d'un bien ou d'un service la plus grande distance, en probabilité, que les consommateurs acceptent de parcourir pour se procurer ce bien ou ce service. Alors, le modèle de Rayy a été énoncé par William Rayy dès les années 20 avec un intitulé parlant de gravitation du commerce de détail. Et en fait, c'est une transcription plus directe que celle que nous avons vue de la loi de gravitation universelle de Newton, puisque Rayy considère que la force d'attraction d'un lieu J qui offre un service ou un commerce sur un lieu quelconque I est proportionnelle à la masse du lieu J, mesuré par exemple par des mètres carrés de surface commerciale ou des nombres d'emplois ou tout autre indicateur de la puissance de ce centre, mais divisé par le carré de la distance entre J et n'importe quel lieu I. Donc, dans ce modèle, on a bien une force d'attraction proportionnelle à la masse du lieu et inversement proportionnelle à la distance qui le sépare des lieux où peuvent résider des clients. Dans l'espace géographique, qu'est-ce que ça donne? Puisque nous avons une influence qui est fonction non linéaire de la distance, nous avons sur la carte des aires de marché circulaires. Représentées en relief, cela nous donne davantage des cônes avec des bords un peu hyperboliques, puisque l'effet de la distance n'est pas linéaire. Et nous pouvons calculer une limite du partage d'influence entre deux centres en considérant que s'il y a deux centres, eh bien, les divisions des masses par le carré des distances sont égales à cet endroit-là. Et donc, nous avons une petite formule qui nous permet de calculer à quelle distance du point A va se trouver le point P, où les influences des centres A et B de taille inégale s'égalisent. Nous en donnons une représentation ici de ce partage des aires de marché entre deux centres de taille inégale et le point P serait situé quelque part sur le segment AB à droite du point B, en donnant donc comme limite un arc de cercle centré sur ce point P et, vous le voyez, permettant que l'aire d'influence de B soit un petit peu mangée par celle de A, qui est un centre plus puissant dans la partie où ces centres ont une influence concurrente. La clientèle va se partager entre les deux et avec donc cette idée du cercle qui représenterait le lieu d'influence équivalente mis en pointillé autour du centre B et de son centre P. Lorsque les centres qui, attracteurs, attractifs, sont très inégaux en importance. On peut même avoir une inclusion complète de la zone de marché du lieu B dans celle du lieu A. C'est un cas de figure qui intervient fréquemment en milieu urbain où nous avons des centres secondaires qui se localisent à l'intérieur de la zone d'influence d'un centre principal. Et c'est seulement lorsque les centres sont d'importance égale que la limite entre leurs zones d'influence se situe exactement sur la médiatrice séparant le segment AB en deux zones d'influence égales. Nous avons alors des possibilités, dans des schémas où il y aurait plusieurs centres, d'utiliser les diagrammes de Voronoi ou d'autres types de partitions du territoire pour représenter les limites d'influence entre les centres. Dans la vraie vie, nous retrouvons en fait cette loi du modèle de Rayy, assez opérationnelle, comme par exemple ici, pour distinguer les clientèles d'un petit centre situé dans la Dombes, près de Lyon, qui est Châtillon-sur-Chalaronne, par rapport au plus grand centre que constitue Bourg-en-Bresse, dont vous le voyez, l'aire d'influence est plus étendue, et nous avons assez bien circonscrit, avec le modèle de Rayy, la limite séparant les zones d'attraction des deux centres. Lorsque nous avons des centres de plus grande importance, vous observez qu'il y a davantage de recouvrement entre ici Villefranche-sur-Saône, Mâcon et Bourg-en-Bresse. Et les limites, cependant, correspondent assez bien à, pour départager les zones d'attraction de chacun de ces centres de services. Nous pouvons les observer aussi sur une carte du département de la Saône-et-Loire et là constater que l'extension à taille égale de l'influence des centres est en général plus vaste, la portée spatiale est plus grande lorsqu'on est dans une zone de plaine que lorsqu'on est dans une zone un peu plus, sinon montagneuse, en tout cas collinaire, comme dans le Mâconnais et le Beaujolais. Et puis au passage, observons aussi que la vieille ville d'Autun, qui est un centre de service mais pas très peuplé, a malgré tout une zone de chalandise, une aire d'influence plus étendue que celle d'une ville comme Montceau-les-Mines, qui est plus peuplée, mais qui a des fonctions surtout industrielles et dont l'expansion de l'attraction se trouve limitée par la vallée dans laquelle elle est inscrite. Alors, cette règle du partage des aires de marché des différents centres offrant des services, elle a été établie de manière systématique depuis longtemps par le géographe Walter Kristaller, qui, analysant la répartition des centres de services en Alsace et en Bavière, a pu dessiner, vous le voyez, des zones d'influence des centres, donc d'après des observations de leur clientèle, de manière tout à fait circulaire autour des petits centres. Mais vous voyez que les grands centres qui viennent en concurrence peuvent avoir, eux, des zones d'influence dont les tracés sont davantage polygonaux. Kristaller avait indiqué que dans une plaine homogène, ce seraient des hexagones très réguliers. Dans les faits, nous avons souvent des pentagones, parfois des triangles. Tout dépend du relief, des facilités de circulation et aussi, bien sûr, des inégalités de densité de population et de leur pouvoir d'achat. Finalement, cette règle de Rayy, ce modèle de Rayy, avec des aménagements, quant aux mesures des distances qui peuvent utiliser bien sûr le réseau des rues et pas seulement être mesurées à vol d'oiseau, avec d'autres règles également qui dépendraient de la répartition spatiale de la clientèle, donc on va localiser très précisément dans un système d'information géographique, et avec également des possibilités de variantes que les commerçants connaissent bien en termes d'attraction des types de clientèle, eh bien, un modèle un peu plus sophistiqué que celui représenté par l'équation de Rayy a été utilisé ici par des physiciens lyonnais pour, d'une part, localiser les boulangeries existantes, représentées par des petits points noirs, et d'autre part, identifier où, dans quelle zone, avec des règles simples, on pourrait installer d'autres boulangeries qui se situeraient donc dans des zones où ces magasins ne sont pas encore implantés et qui offrent par ailleurs une quantité de clientèle accessible suffisante pour permettre donc, comme dans toutes les zones rouges, de se risquer à implanter une nouvelle boulangerie. Donc, avec cette loi de Rilly et ce principe qui est très employé dans le géomarketing, nous voyons là l'une des applications parmi les plus importantes du modèle gravitaire dans la géographie appliquée encore aujourd'hui.